Donc, nous restons à Goma pour prendre deux questions, puisque le micro est entre vos mains. Donc, deux questions à Goma, de préférence une dame pour démarrer cette conférence de presse. Merci.
Alors, merci beaucoup. Patrick Félix, un peu pour les grands chiffres du chapitre TV. Florence Marchal, on peut savoir un tableau qui a été documenté sur la situation de la liberté de presse en Afrique et partiellement ou particulièrement ici en République démocratique du Congo. Je crois que c'est au moins cela.
Oui, merci. Vous avez compris la question?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs reprises lors d'autres journées consacrées à la défense et à la promotion de la liberté de la presse. Le représentant de l'UNESCO ici en RDC, l'UNESCO, vous le savez, qui est au sein des Nations Unies et en première ligne pour mobiliser tous les partenaires autour de ces questions de promotion de la liberté d'expression. Je crois qu'il était venu vous présenter le tableau. On va se mettre en relation avec eux afin de vous fournir un tableau actualisé qu'on présentera lors d'une prochaine conférence de presse.
Merci. Nous restons à Goma pour une deuxième question.
Moi, c'est Jérémy Tramp de la radio Taïna de Goma. Je voulais savoir, parce que vous nous avez promis que vous suivez de près l'histoire de la lucha, mais qu'en est-il? On a parlé de trois qui ont été libérés, et qu'en est-il pour les trois autres? Parce que parmi les six, on a libéré trois. Est-ce qu'on peut savoir les conditions dans lesquelles, par exemple, dans les conditions dans lesquelles ils sont détenus?
Merci pour cette question. Nous avons avec nous un représentant du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui voudra bien se présenter pour donner des éléments de réponse. Barbara, asseyez-vous.
Oui. Allô, bonjour. Bonjour tout le monde. Effectivement, nos équipes à Goma suivent les détentions des trois autres. Je n'ai pas les détails de la dernière visite, mais je sais que les collègues suivent de près et aussi bien on est en train de vérifier quelles sont les charges contre ces personnes qui restent encore détenues et les procédures à leur encontre.
Oui, merci. Il s'agissait là de Barbara Matasconi du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui venait de vous fournir ces explications. Donc un suivi est maintenu concernant la situation de ces activistes de Lucha. Nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux questions. Une à gauche, oui, donnez à cette dame s'il vous plaît. Et nous prendrons une autre question à droite tout à l'heure.
C'est Néné Nkendo du journal Opinion. L'accord politique étant signé, nous assistons à des scènes d'éreignement, de non-reconnaissance du côté de certains acteurs politiques. Quel est le meilleur procède à appliquer pour faire adhérer le maximum d'acteurs politiques à cette attente? Faut-il le contraindre?
Colonel.
Oui, faut-il comprendre quoi? Oui, allez au bout de votre question.
J'ai dit, hein,
oui.
L'accord politique étant signé, nous assistons à des scènes réunissant de non-reconnaissance du côté de certains acteurs politiques. Quel est le meilleur procédé à appliquer appliquer pour faire adhérer le maximum d'acteurs politiques à cette attente? Faut-il le contraindre?
La question reste posée, madame. Quel est le meilleur procédé? Je pense que je n'ai pas la réponse à cette question. Ce que je peux vous dire tout simplement, vous avez, comme nous tous ici, observé tout le processus qui a mené à la signature de cet accord entre toutes les parties prenantes au dialogue national. Vous avez aussi tantôt mentionné Évidemment la présence ou en tout cas certains acteurs qui ne sont pas impliqués dans ce processus, mais je pense que comme nous l'avons dit, les contacts se poursuivent et je pense qu'il est clairement indiqué dans cet accord-là que la porte était restée ouverte et que ceux qui voudraient rejoindre ou en tout cas prendre le train en marche, que cette possibilité leur était toujours offerte, mais aussi il y en a qui ont leur position. Je pense qu'il faut respecter les positions de tout un chacun. Ce n'est pas à la MONUSCO de contraindre qui que ce soit à adhérer ou à ne pas adhérer. Nous pensons tout simplement que nous encourageons tout le monde à travailler dans le sens de la paix pour que, en tout cas, le calme puisse prévaloir durant toute cette période-là. Donc voilà ce que je peux vous donner comme élément de réponse à votre question. Oui, une deuxième question ici.
Guy Oloume, RTMC de développement. Félix, après une dizaine d'années en RDC, comment la MONUSCO évalue-t-elle la situation des journalistes en RDC? La presse est-elle bâillonnée ou bien en mouvement?
Oui, Barbara. Oui, quelle est l'évaluation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme?
Je ne peux pas parler sur une période de 10 ans. Ce qui est sûr, que les journalistes font partie d'une des catégories que nous suivons de très près, surtout dans une période préélectorale où certaines catégories, notamment les journalistes, les opposants politiques et la société civile, peuvent faire l'objet d'atteintes qui sont liées à la nature de leur travail. Donc, disons qu'on a on a encore des problèmes avec certains des journalistes qui sont arrêtés, notamment nationaux aussi bien qu'internationaux, arrêtés ou harcelés ou qui ont des problèmes pendant certaines journées particulières, notamment des manifestations politiques ou des activités de la société civile. Donc, je pense que je n'avancerai pas un bilan, mais je dirais que la catégorie est encore une des catégories qui est particulièrement ciblée pendant certaines périodes.
Oui, merci Barbara. Peut-être juste pour rappeler que, en tout cas, par cette journée, les Nations Unies indiquent clairement la voie à suivre et aussi sont très fermes sur les principes fondamentaux à défendre concernant les droits des journalistes, mais aussi le droit du public à l'information. Donc nous repartons tout de suite à Goma pour prendre deux autres questions. Goma, vous avez le micro.
On a le droit d'une dame. Allez-y, le micro est là, s'il vous plaît.
Moi, c'est Brigitte Makuta, correspondant d'Athènes à Kinshasa. Ma question s'adresse à Bas. Est-ce que Bas peut nous donner l'état de lieu de la situation actuelle en vue de Tembo suite aux affrontements entre les Mai Mai et les FARDC et la MONUSCO?
Oui, merci beaucoup. Donc, je vais d'abord demander au capitaine Kassim s'il y a des éléments de réponse à apporter à cette question d'ordre sécuritaire. Mon capitaine?
Non, pour le moment, on n'a pas encore les informations sur le bilan de ces opérations-là.
Pas le bilan.
Ils sont sortis.
Pas le bilan.
Oui, donc je vais peut-être juste un peu compléter pour dire que suite à ce que nous avons observé il y a deux semaines de cela dans le territoire de Butembo, avec l'apparition d'un nouveau groupe Mai Mai appelé Corps du Christ, nous avions aussi enregistré quelques décès suite à des accrochages qui ont eu lieu avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ce que nous avons comme information, ces Mai Mai se sont repliés au niveau du Mont Carmel et les FRDC sont déployés sur le terrain, mais aussi la MONUSCO, la force de la MONUSCO a déployé un détachement de la FIB qui est actuellement à Butembo pour venir éventuellement renforcer le dispositif mis en place par les FRDC, mais aussi protéger les populations civiles. Nous restons à Goma pour une deuxième question.
Merci, M. Alain, de la chance de J'ai une question à M. Félix. M. Félix, souvent on parle des militaires, de la MONUSCO et des opérations. Vous avez parlé de la situation au Tikatanga. Moi, je voudrais comprendre ce que le bureau de la MONUSCO, qui a aussi un département civil, qui parfois se charge des conflits communautaires, et on connaît que la situation dans Tikatanga est purement communautaire. À quel niveau se situe le plaidoyer au niveau du bureau civil de la MONUSCO entre les deux communautés qui s'affrontent ça fait plus de 10 ans aujourd'hui? Merci.
Oui, merci. Vous avez posé là une question très pertinente qui est relative à ce conflit interethnique observé dans le Tanganyika. Juste au passage, pour vous dire que ce n'est plus le Katanga, c'est le Tanganyika. Et la force de la MONUSCO, d'abord au niveau de la MONUSCO en termes sécuritaires, les dispositions immédiates qui ont été prises, c'est le déploiement d'une base temporaire à Nyonzou pour protéger les populations civiles, mais aussi dissuader toute action offensive de l'une ou l'autre communauté contre les ressortissants d'un groupe ethnique bien précis. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons aussi appuyé les autorités provinciales dans le cadre justement de la résolution de ce conflit interethnique qui est observé, comme vous l'avez tantôt mentionné, depuis très longtemps, un peu plus de 2 ans d'ailleurs même. Et non seulement nous avons apporté l'appui logistique, mais nous avons aussi mené des missions d'évaluation et de sensibilisation dans ces localités-là pour mettre en œuvre des mécanismes qui permettent à toutes ces communautés de pouvoir s'asseoir et de discuter des problèmes de fond qui les opposent depuis très longtemps. Et je pense que ces missions et ces actions qui sont menées aussi bien par les autorités locales, les autorités provinciales, mais aussi avec les autorités de la MONUSCO qui sont actuellement dans la province du Tanganyika, les résultats sont en train d'être observés progressivement. Mais vous savez, c'est un conflit aussi qui dure. On peut même dire que c'est un conflit séculaire. Évidemment, ça prendra un peu de temps, mais aussi avec la détermination des autorités provinciales que nous avons observées et l'appui constant et déterminant de la MONUSCO, nous pensons que nous pourrons arriver à réconcilier progressivement ces deux communautés. Merci, donc nous revenons ici à Kinshasa. Oui, excusez-moi, vous avez un mot?
Oui, peut-être j'ai...
Barbara a un mot à rajouter.
Peut-être je pourrais ajouter dans ce même dossier que la MONUSCO, notamment les bureaux conjoints des droits de l'homme, a appuyé un procès qui est ouvert à l'encontre de plus d'une trentaine de membres de cette communauté. Et nous avons appuyé les autorités de la justice militaire à pouvoir se déployer dans le cadre des enquêtes dans les zones où les incidents graves se sont passés. Et le procès est un procès pour des crimes internationaux.
Merci pour ces éclairages, Barbara.
Une précision, c'est la justice, pas la justice militaire, mais la justice civile.
Merci pour cette précision. Donc, nous revenons ici à Kinshasa, nous prenons 2 questions, une à droite. Vous avez le micro juste à côté, oui.
Merci, c'est Venant vous dire ça pour la RTNC. Monsieur Félix, je reviens à la signature de l'accord entre qui est intervenu la semaine passée, si j'ai bonne mémoire, entre le gouvernement, disons, entre le ministère de la Défense nationale, disons, pour appuyer les forces armées congolaises. Ce qui m'étonne, c'est ceci. À chaque conférence de presse, vous ne cessez jamais de dire, de parler du soutien de la force onusienne apportée aux forces armées congolaises pour la sécurisation de l'Est du pays. Maintenant, dans quel cadre s'inscrit ce protocole d'accord qui était signé vendredi passé entre la force onusienne et le ministère de la Défense de notre pays? Merci.
Oui, merci. Vous avez parfaitement raison d'indiquer la signature de cet accord qui n'est rien d'autre que un nouveau point de départ, parce que figurez-vous que nous avions signé le premier accord en janvier. Et cet accord devait courir pour 6 mois, ça veut dire jusqu'en juillet 2016. Cet accord a été réévalué, réexaminé par les autorités aussi bien congolaises que les autorités militaires de la MONUSCO. Et c'est ainsi qu'un deuxième accord a été signé vendredi, comme vous l'avez tantôt indiqué, et qui va durer 1 an. Cet accord permettra aux deux forces de poursuivre la coopération qui avait déjà été initiée, mais aussi de rectifier, de corriger certaines imperfections ou en tout cas certains manquements qui ont été observés dans la mise en œuvre de cet accord-là. Mais pour résumer, cet accord portera sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est un appui logistique que la MONUSCO continuera, conformément à son mandat, à donner aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième aspect de cet accord, c'est un appui au combat, ça veut dire un appui tactique ou un appui feu que la MONUSCO apportera aux forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette coopération. Le troisième aspect, c'est l'appui au renseignement. Le renseignement, l'acquisition, la collecte, le traitement et l'exploitation de ces renseignements seront faits de part et d'autre par les deux composantes et les expériences seront partagées entre les deux entités aussi pour que la traque et la neutralisation des groupes armés puissent être plus effectives. Nous avons trois objectifs prioritaires. Le premier, c'est l'ADF. Le deuxième, c'est les FDLR. Le troisième, ce sont les autres groupes armés. Donc voilà un peu de manière très globale la quintessence de cet accord-là. Évidemment, il faut aussi inclure, évidemment, l'appui à l'évacuation médicale. Ça veut dire que mettre en œuvre des aéronefs et les équipes médicalisées pour permettre l'évacuation éventuellement de nos blessés ou de nos frères FRDC qui, dans les efforts qu'ils auront mis en œuvre, pourraient être blessés. Donc voilà, de manière très globale, ce que contient cet accord qui n'est rien d'autre que la poursuite d'une coopération qui avait déjà été initiée après un temps de suspension. Merci. Donc je prends une deuxième question ici. Oui, madame, vous êtes arrivée en retard.
Merci, Félix.
Oui, allez-y, oui, merci.
Théodore Gandou pour les comptes de Télé 7. Félix, vous avez suivi la conférence épiscopale nationale du Congo qui a repris encore son bâton de pèlerinage dans les consultations des acteurs politiques pour un éventuel deuxième round du dialogue politique. Est-ce que la MONUSCO sera prête à offrir ses bons offices à ce deuxième round du dialogue politique en vue d'une inclusivité?
Oui, merci. Je ne sais pas si vous avez bien compris la démarche de la CENCO. Je n'ai entendu nulle part parler d'un deuxième dialogue. Je pense que ce concept revient tout le temps. Je n'ai pas entendu parler de ça. Ce que je sais, c'est qu'il faut se féliciter qu'il y ait encore des membres de la société civile, notamment la CENCO, qui soient aussi engagés dans la recherche de solutions durables, de solutions apaisées entre tous les acteurs. Heureusement que la CENCO continue à jouer le pont entre les différentes positions qui ont été observées avant le dialogue, pendant le dialogue et après le dialogue, mais je ne sais pas si il s'agit d'un deuxième dialogue. Évidemment, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est aussi dans la même dynamique, il s'inscrit dans la même veine tous les jours, il reçoit des gens, il discute avec des gens, il essaie d'apaiser les tensions, d'appeler à la retenue, au calme, en vue d'un processus qui a déjà été initié d'ailleurs par le déploiement de kits électoraux déjà au Tanganyika par la MONUSCO, avec l'appui de la MONUSCO. Je pense que tout ceci, toutes ces actions s'inscrivent vraiment vers une direction qui appelle à la paix. Donc voilà ce que je peux dire, mais je ne sais pas s'il s'agit d'un deuxième dialogue. Mais tout ceci, vous savez, aussi, il faut retenir une chose, c'est une décision des Congolais. Je pense que la MONUSCO ne fait qu'accompagner le processus compte tenu de la décision que les Congolais auront prise. Merci. Donc, je repars à Goma pour prendre encore deux questions. Je pense qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes. Goma, vous avez le micro pour deux questions.
Voilà, merci. Je réponds à Blaise Pascal pour le compte L'Essentiel Groupe. Je pose ma question à M. Félix. On est pratiquement en train de chuter vers la date du 19 décembre, qui est considéré par les uns et les autres d'une date d'hécatombe. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'en amont, il y a un travail qui est fait par le Bureau conjoint de droits de l'homme, les Nations Unies en droits de l'homme, et la MONUSCO pour effectivement éviter en aval de venir compter les cadavres qui sont considérés aujourd'hui comme une spécialité de ce bureau conjoint des Nations Unies? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en amont pour éviter justement de pouvoir compter les morts comme ça s'est fait à la date du 5 au 20 décembre et 10 ans, septembre 2016?
Oui, merci. Avant de passer la parole à Barbara pour des éléments de réponse, je voudrais rebondir encore une fois, je viens de le dire. Tout le monde travaille justement à ce que nous allions vers un processus apaisé, calme, et où les expressions peuvent être librement formulées. Mais est-ce que nous avons une solution? Non, mais ceci est notre travail de tous les jours. Nous travaillons à ce que la paix s'installe. Nous travaillons à apaiser les esprits. Nous travaillons à aplanir les divergences. Donc oui, nous sommes inscrits dans cette dynamique afin qu'on ne puisse pas, comme je l'ai dit, revivre ce qui a été vécu ici les 19 et 20 septembre. Parce que vous savez, la mort d'un seul Congolais est une mort de trop, surtout dans ces circonstances-là où ce sont les idées qui doivent prévaloir. C'est le choc. Des approches que l'on devrait sentir, pas de compter des morts, comme vous l'avez dit. Barbara, si vous avez quelque chose à dire sur éventuellement les mesures qui sont déjà prises en amont par le bureau conjoint dans le cadre justement du 19 décembre.
Oui, moi je pense que bon, la partie, les rapports que vous lisez, vous dites bon, de manière assez simpliste, je pense, compter les morts, c'est notre spécialité. Ça, c'est le résultat d'une enquête approfondie, d'un monitoring approfondi, d'un travail de terrain très minutieux qu'ils font nos collègues. Et à l'issue de ce travail, nous partageons les résultats de ces enquêtes avec le gouvernement congolais et on leur demande de pouvoir, de leur côté, faire leurs enquêtes et porter les responsables de ces violations graves devant la justice et de pouvoir les sanctionner. Après, il y a tout un travail de prévention que nous faisons avec des réseaux de prévention, avec un monitoring à l'avance. Il y a les bons offices qui font d'autres composantes de la MONUSCO qui est peut-être moins évident aux yeux de tout le monde, mais qui est là et qui est très important. Et pour le 19, comme on l'a fait pour le 19 décembre, comme on l'a fait en d'autres occasions où c'était des dates importantes qui réveiller un peu des esprits, des mauvais esprits et des mauvais souvenirs. On va mettre en place des teams de monitoring bien avant. On va essayer de parler avec les représentants des partis politiques, avec la société civile, pour que tout se passe comme Félix l'a dit, dans le calme et dans le respect des droits de l'homme. Parce que c'est important que tout le monde pourra exprimer leurs opinions vis-à-vis certaines dates qui expirent et certains moments importants de la vie des Congolais.
Oui, merci. Donc, retour ici à Kinshasa, je pense. Oui, donnez le micro ici. Oui, rapidement, s'il vous plaît.
RTNC de développement, Laetitia Massila, comme on parle de l'accord, en sens politique, un accord fait partie des dispositifs régis de restauration de paix en période de conflit. Souvent, ces instructions, comment sur vos instructions? Sur vos instructions, comment les Congolais pouvaient-ils capitaliser? C'est à qui pouvons-nous espérer que le gars de l'Est vont désormais finir avec un accord? Merci.
J'ai pas bien compris votre question. Oui, s'il vous plaît.
En sens politique, un accord fait partie des dispositifs régis de restauration de paix en période de conflit. Sous vos instructions, comment les Congolais pouvaient-ils capitaliser cet acquis? Pouvons-nous espérer que les guerres de l'Est vont désormais finir avec un accord? Vous avez compris?
Oui, je crois que j'ai compris la question, même si elle est un peu assez compliquée, parce que dans cette question, il y a beaucoup d'aspects. D'abord, je voudrais dire que la MONUSCO n'a pas d'instruction à donner à qui que ce soit. Nous sommes dans un pays souverain, avec des institutions souveraines, et je pense tout simplement que la MONUSCO est là, comme je le répète souvent, sur invitation du gouvernement congolais pour contribuer à non seulement neutraliser les groupes armés, à protéger les populations civiles, mais aussi à stabiliser le pays. Oui, les accords, heureusement qu'il y a des accords qui permettent de mettre un terme à certaines situations conflictuelles, mais si cet accord qui a été signé à la Cité de l'Union africaine va mettre fin aux guerres observées à l'Est, je ne pense pas qu'on soit dans le même domaine. Cet accord est un accord politique qui permettent d'aller vers des élections futures transparentes, crédibles et apaisées. Le problème des guerres ou de la violence qui a été observée à l'Est, je pense à trouver un cadre fondateur qui est l'accord cadre pour la paix et la sécurité, compte tenu justement de l'impact de la violence que nous avons observée sur les populations congolaises, mais aussi sur les populations des pays de la sous-région, ou en tout cas des pays voisins de la RDC. Cet accord cadre doit prendre en compte les causes profondes de tout ce conflit. C'est donc depuis 2013 que les gens travaillent à la mise en œuvre effective de cet accord cadre, et c'est dans ce cadre-là encore que les chefs d'État s'étaient réunis à Luanda. Ça, c'est pour voir comment mettre un terme à la violence qui est observée à l'Est. Mais nous parlons là d'un accord qui a été fait, un accord politique qui a été signé à la Cité de l'Union africaine pour des questions politiques, à savoir les élections futures qui se profilent à l'horizon. Merci. Donc, je prends une deuxième question là à droite. Oui.
Merci. Rigobert Kabongo pour le Courrier d'Afrique. Nul n'ignore que la RDC, les Zaïre à l'époque, disons, a été imposée d'accueillir les Interahamwe ici, qui constituaient les Banyamulenge. Et aujourd'hui, certains d'entre eux sont encore ici, ils ont fait des familles. Et aujourd'hui, la communauté, c'est pas moi, a saisi la RDC pour l'accueil de réfugiés sud-soudanais. Je voulais savoir, vous avez même annoncé le déplacement de ces réfugiés sud-soudanais vers les localités de Biringue, vers Ituri, vers Douma et Ituri. Et je voulais savoir, ils sont pris en charge par quelle structure et qu'en est-on du processus de rapatriement des hommes d'Éric Machar? Parce que vous avez évoqué dernièrement qu'il y a des pourparlers pour trouver un pays qui pourra accueillir les hommes armés d'Éric Machar qui se sont réfugiés ici chez nous. Mais, et ce sont des hommes armés et les réfugiés, ce sont des civils.
Oui, merci. Donc, je passerai la parole à notre collègue du HCR qui est là. Mais avant cela, je voudrais corriger une chose. Vous savez dire que la communauté internationale a donné des instructions à la République démocratique du Congo pour accueillir les Interahamwe. Je pense que vous avez parlé du Zaïre à l'époque. Je pense que le Zaïre était un État constitué avec des institutions fortes qui fonctionnent normalement. Il est évident que la souveraineté de ce pays est respectée et doit être respectée pour ne pas parler d'une imposition extérieure faite par la communauté internationale. Je pense que il faut restituer aussi l'histoire dans la formulation de vos pensées. Je pense que il faut remercier le gouvernement congolais d'avoir accepté de recueillir ces réfugiés à l'époque qui fuyaient le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle situation. Avant de passer la parole à mon collègue du HCR, je voudrais revenir sur la situation des combattants de Riek Machar que nous avions extrait. Et évidemment, aujourd'hui, cette phase, nous sommes entrés dans une autre phase qui est une phase diplomatique, une phase où tous les acteurs congolais, Nations Unies et d'autres institutions de la sous-région s'activent à trouver une solution définitive et pérenne à la situation des éléments de Riek Machar. Et comme je le répète tout le temps, les éléments de Riek Machar n'ont pas leur place en République démocratique du Congo. Ces gens armés, désarmés par la MONUSCO, certes, doivent partir. Donc c'est dans cette dynamique que tous les acteurs sont en train de s'impliquer pour trouver une solution à cette crise. Je passe donc la parole à mon collègue du HCR pour nous faire le point un peu de la situation des réfugiés.
C'est bon. Allez-y, ouais. Je voudrais aussi souligner que la différence entre les combattants de Riek Machar qui ont été pris en charge par la MONUSCO et les réfugiés sud-soudanais, elle est très claire. Il s'agit de deux groupes différents il s'agit de deux groupes dans des endroits différents et dans une situation différente. Donc il ne faudrait pas faire l'amalgame entre les réfugiés et les combattants. Il y a 60 000 réfugiés sud-soudanais actuellement en RDC. C'est un grand nombre, mais il faut aussi prendre en compte que il y a une obligation internationale. La RDC a signé la convention de l'Union africaine sur de l'OUA à 7 ans sur la protection des réfugiés ou aussi la convention de 1951 sur les réfugiés. Les personnes qui fuient le conflit doivent être accueillies. La RDC, heureusement, met très bien en pratique ses obligations internationales. Elle n'a pas seulement accueilli des réfugiés sud-soudanais, elle a aussi accueilli des réfugiés burundais, des réfugiés centrafricains. Pour les réfugiés sud-soudanais, actuellement, les HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, travaillent très étroitement ensemble avec les autorités qui ont demandé à ce qu'on facilite le transfert des réfugiés qui se trouvent dans la zone frontalière, dans des sites où ils seront accueillis après des discussions avec les autorités, surtout les nouveaux, aussi les communautés locales qui ont donné leur accord pour accueillir ces réfugiés, et où on s'attend à ce que, avec une assistance internationale, ces réfugiés vont devenir autosuffisants.
Oui, merci. Pour reprendre un peu le docteur Diallo qui disait souvent au cours de ses interventions que le premier acteur humanitaire en République démocratique du Congo, ce sont les populations. Encore une fois, mon collègue du HCR vient de le marteler. Les communautés ont bien eu la générosité d'accepter d'héberger ou d'accueillir en tout cas ces réfugiés. Donc merci, nous allons rendre l'antenne à Radio Okapi dans une minute avec tous nos remerciements. Nous partons à Goma pour prendre deux questions. Goma.
Radio Okapi.